Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers enfants, un mot pour vous. J'espère que vous aimez rentrer dans les églises, pour vous recueillir, pour prier, et pour profiter de la paix qui règne dans les églises. Surtout qu'en France, nous avons énormément de belles églises. Connaissez-vous cette histoire de Clovis, racontée par Don Guéranger? Clovis, peu après sa victoire, vous savez, à Tolbiac, face aux Alamans, eh bien Clovis se convertit. Et donc, il se prépare au baptême avec Saint-Rémy, l'évêque de Reims. Et donc, Saint-Rémy lui enseigne les choses du royaume de Dieu. Et un jour, Saint-Rémy emmène Clovis dans l'église Sainte-Marie. Ce n'est pas encore la grande cathédrale de Reims que nous connaissons, mais c'est déjà une très belle église. Et Clovis, en rentrant dans cette église, est émerveillé. Il est émerveillé par la beauté de l'église et par la paix qui y règne. Et il dit à Saint-Rémy, « Mon père, n'est-ce donc pas là le royaume que vous m'avez promis ?» Voyez-vous, Clovis pensait que cette église à Reims, c'était déjà le royaume de Dieu. Et voilà ce que l'évêque Saint-Rémy lui répond. « Roi Clovis, cette église, c'est l'entrée du chemin qui doit y conduire. » Magnifique réponse de Saint-Rémy. Les enfants, toutes les églises sont vraiment l'entrée du chemin du ciel. Vous voyez, nous avons allumé, comme c'est l'anniversaire de la dédicace de l'église Saint-Georges, nous avons allumé des cierges sur chacun des piliers de l'église. Et ces cierges forment un chemin vers le ciel que nous verrons tout à l'heure apparaître sous le sacrement de l'Eucharistie. Alors vraiment, dans les églises, eh bien, c'est Dieu qui est présent dans le tabernacle, c'est Dieu qui est présent sur l'autel, par la liturgie où Dieu nous sauve. Et sur l'autel, vous savez que tous les anges aussi, tous les saints sont là, autour de Dieu. Alors les amis, les enfants, ne vous lassez jamais de rentrer dans les églises, car Dieu vous y attend avec toute sa gloire et tout son amour. Les églises sont la porte du ciel. Bien, chers frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui les 6 ans de la dédicace de l'église Saint-Georges. Ceux d'entre vous qui ont eu la grâce d'y assister se rappellent le somptueux déploiement liturgique que réclame cette cérémonie de la dédicace. Aspersion, onction, translation de reliques, cendres, l'encens brûlé sur l'autel et la messe pontificale. Pourtant, nous pourrions nous demander si tout ce déploiement liturgique pour une construction de pierre n'est pas un peu superflu. En fêtant l'anniversaire de la dédicace de notre Église, est-ce que nous n'idolâtrons pas un peu cette construction de main d'homme? Est-ce que nous n'idolâtrons pas un peu les rites extérieurs qui y seront célébrés au détriment de l'adoration qui est due à Dieu seul, en esprit et en vérité? Parfois, les protestants nous reprochent cela. Alors devant cette question du juste rapport que nous devons avoir avec notre Église, nous pouvons apporter un éclairage sous 3 angles. Premièrement, en tirant une leçon de l'expérience du Temple dans le peuple d'Israël. Puis en découvrant que le Christ lui-même a assumé une part au moins de l'héritage du Temple et il a voulu que nous célébrions les sacrements dans des lieux prévus à cet effet. Et enfin, en découvrant comment nos églises de pierre sont dès à présent le signe de la Jérusalem céleste. Le premier temple de Jérusalem a été dédicacé par le roi Salomon vers l'an 950, au cours d'une cérémonie grandiose où on a sacrifié 22 000 veaux et 200 000 brebis. On asperge l'autel et les murs avec le sang de ces animaux sacrifiés, on fait brûler de l'encens et on amène l'Arche d'Alliance dans le Saint des Saints. Et une fois l'Arche d'Alliance déposée derrière le voile du Saint des Saints, l'Écriture nous dit que le feu descendit du ciel, qu'il consuma les holocaustes et que la gloire du Seigneur remplit le temple. Dieu, par là, prend possession de son temple. Il y révèle sa gloire. Et le peuple se prosterne et jubile. Malheureusement, les Juifs vont trop se reposer sur la confiance qu'ils mettent dans la splendeur de ce temple de pierre. Et ils s'imaginent que Jérusalem ne pourra jamais tomber devant ses ennemis du simple fait que Dieu y a établi sa demeure. Et devant l'absence de conversion de son peuple, Dieu va permettre que Jérusalem tombe devant Nabuchodonosor, vous le savez, en 587. Et Dieu va même permettre que son temple soit profané, soit dépouillé de toutes ses richesses. Alors quel drame pour les Juifs, quel drame pour l'expression de leur foi. Mais ce drame va permettre à Israël, justement, de purifier sa foi. L'histoire du peuple juif nous apprend donc que notre foi ne repose pas d'abord sur un édifice de pierre, aussi somptueux soit-il, mais sur notre fidélité à Dieu et à sa loi. La foi est d'abord un acte spirituel, et le vrai culte, le culte authentique, part d'abord de nos cœurs repentis. En ce sens, il nous faut admettre que notre foi chrétienne non plus ne dépend pas d'abord de ces édifices. Cependant, si Jésus, à la suite de l'expérience du peuple juif sur le temple, si Jésus nous demande un culte en esprit et en vérité, il ne remet pas en cause la nécessité d'un lieu consacré pour le culte. Nous le voyons lorsque dans l'évangile de Saint Jean, notamment, il purifie le temple, en réclamant que ce temple redevienne vraiment une maison de prière. Et puis nous le voyons aussi lorsque Jésus donne des consignes précises à ses apôtres pour préparer la célébration de la scène. Non, il est impossible de célébrer l'Eucharistie dans n'importe quelle condition de lieu et d'espace. Et nous voyons que cette volonté du Christ, d'une part, assume l'héritage vétérotestamentaire, et d'autre part, rejoint aussi le besoin de tout homme d'avoir des lieux dédiés, des lieux consacrés, pour rendre un culte à la divinité. Et l'Église, autant qu'elle le pourra, respectera cette volonté du Christ d'établir un lieu pour célébrer la liturgie. Voilà pourquoi, nous dit Don Lefèvre, comme autrefois Salomon pour le temple de Jérusalem, l'Église, avec un grand E, s'est toujours plu à employer toutes les ressources du génie humain et toutes les richesses de la nature pour qu'elles fissent retour à Dieu dans la construction de sanctuaires dignes de lui. Alors bien sûr, nous connaissons des églises plus ou moins réussies. Il y a des architectes qui ont commis des péchés de jeunesse ou des péchés de vieillesse peut-être. Mais globalement, nous pouvons être émerveillés par le tissu d'églises, de chapelles, de cathédrales qui sont répandues sur notre territoire. Et en vérité, ce sera le dernier aspect de notre question, ce tissu d'églises consacré au culte chrétien est le signe d'une réalité déjà présente, mais encore voilée. Cette réalité, c'est la Jérusalem nouvelle décrite dans le livre de l'Apocalypse que nous avons entendu en première lecture. Cette cité sainte qui descend du ciel n'est rien d'autre que le tabernacle de Dieu avec les hommes, la demeure de Dieu parmi les hommes. Mais ne croyons pas que cette Jérusalem nouvelle ne commencera qu'au jugement dernier. Non, en vérité, elle a commencé depuis la résurrection du Christ. C'est bien depuis sa résurrection et son ascension que le Seigneur a commencé à faire toutes choses nouvelles. C'est bien depuis cette victoire sur la mort et sur les péchés que la Jérusalem nouvelle commence à descendre en se remplissant de toutes les âmes sauvées, à commencer par celle de la bienheureuse Vierge Marie. Et voilà la raison d'être de nos églises. Elles sont le signe de cette Jérusalem nouvelle qui descend. Et quand l'évêque est venu dédicacer cette église, c'est bien Dieu qui est descendu et qui a fait sienne cette demeure. C'est bien le même agneau immolé et ressuscité qui demeure dans le tabernacle de cette église et qui rend mystérieusement présent la Jérusalem céleste. Par la célébration des sacrements, par la présence eucharistique, par la communion de charité qui nous unit, la Jérusalem céleste est déjà là en acte. Nos églises ne sont donc pas seulement une préfiguration du monde nouveau. Elles en sont le signe, elles en montrent la réalité. Alors bien sûr, nous ne voyons pas la gloire contenue dans ce tabernacle, ni la gloire qui se répand à chaque célébration sacramentelle. Et d'ailleurs, si nous la voyons, oserions-nous seulement nous approcher? Mais par la foi, nous savons que la liturgie qui est célébrée ici est la même réalité que la liturgie qui est célébrée dans la gloire du ciel. Et donc, se priver de nos églises, prétendre que nous n'aurions pas besoin d'édifices consacrés au culte revient à nier l'efficacité du mystère présent dans nos liturgies. C'est renier la dimension eschatologique de l'Église. Cette Église avec un grand E qui, comme le disait le cardinal Ratzinger, nous fait entrer par toutes ces églises construites, toutes ces églises orientées vers le Christ qui revient, dans la procession de l'histoire en marche vers le monde à venir. Bien, chers frères et sœurs, nous avons compris qu'il ne fallait pas s'attacher de manière désordonnée à nos églises de pierre, comme le peuple juif l'a malheureusement trop fait pour son temple. Nous avons vu cependant que le Christ a fait passer dans la liturgie chrétienne la nécessité d'un lieu consacré pour le culte, un lieu où Dieu puisse manifester sa présence, sa gloire et sa miséricorde. Et ce lieu, ce sont nos églises, qui, parce qu'elles abritent une liturgie efficace, celle du Fils qui s'offre à son Père pour notre salut, ces églises sont non seulement la préfiguration, mais bien l'inauguration de la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel et dans laquelle Dieu fait sa demeure. Alors oui, nous pouvons à juste titre aimer nos églises, nous devons aimer nous associer au sacrifice du Christ dans lesquels il est célébré. En ce jour du 11 novembre, je me permets une analogie entre l'Église, avec un grand E, et notre patrie. De même qu'il n'est jamais vain de construire une Église, qu'il n'est jamais vain de venir y prier, et qu'il ne sera jamais vain de défendre nos Églises matériellement, parce que, si petites soient-elles, elles sont le signe de la Jérusalem nouvelle. De même, le sacrifice de nos aïeux pendant la Première Guerre mondiale n'aura jamais été vain, même pour défendre seulement un mètre carré de terre, parce que ce mètre carré de terre, eh bien, c'était déjà la France. Alors demandons à la Sainte Vierge Marie, elle qui par excellence est le tabernacle de Dieu, la grâce, pendant cette messe, de goûter quelque chose de la Jérusalem céleste qui se rend présente à nous dans cette église Saint-Georges. Et prions aussi pour que tous les soldats morts pour la France entrent dans la vraie patrie, dans la Jérusalem nouvelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.